40 ans, le bel âge. Et je crois que beaucoup parmi nous aimeraient échanger leur bulletin de naissance avec celui du Comed. Je me réjouis particulièrement de ce que, pour célébrer cet anniversaire, nous ayons choisi Saint-Étienne. J'ai appris hier en prenant le train que les gens disaient Saint-Té. Car le Comed Loire a été la première implantation non francilienne de notre association, marquant ainsi une évolution importante qui s'est poursuivie en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Guyane, en attendant d'autres sites, peut-être Nantes. Je me réjouis également de ce qu'en cette occasion, la forme donnée à l'événement soit celle d'un colloque qui nous permet de réfléchir sur la santé des exilés et de le faire en conversation avec d'autres acteurs de notre domaine et en dialogue, bien sûr, avec le public large que vous représentez. Je voudrais remercier tout particulièrement l'ensemble des membres du Comed Loire pour avoir préparé cette journée, spécifiquement Dalila, François et Pascal. Bien sûr, il faut aussi remercier le Comed Canal Historique, Yasmine, Farouja et Claire. Et comme vous l'imaginez, un tel événement demande beaucoup d'organisation et donc nous en sommes très reconnaissants. L'essentiel de la journée, comme vous l'avez entendu, est consacré à la situation présente d'un point de vue épidémiologique sur les questions de santé mentale, de mineurs non accompagnés, d'accès aux soins, de droit au séjour des étrangers malades. Et donc j'ai pensé que pour cette ouverture, il pouvait être intéressant de prendre un petit peu de recul et d'avoir une réflexion anthropologique et historique sur la santé des exilés, et de façon à permettre peut-être de repérer une certaine généalogie de la manière dont la question de la santé des exilés, qui est bien souvent plutôt nommée santé des migrants en France, est aujourd'hui abordée. Au fond, la question, c'est d'où venons-nous ? Quelles sont les sources, avouables ou inavouables, de ce qu'on appelle santé des exilés. Alors, j'essaierai donc de prendre un peu de distance tout en espérant ne pas vous perdre pour autant. Ce dont je parlerai n'est bien sûr que l'une des perspectives possibles sur les enjeux présents, pour reprendre les deux termes du titre de notre rencontre, et notamment avec l'idée que même si nous nous attachons aujourd'hui particulièrement aux populations exilées les plus vulnérables, celles qui constituent notre public, eh bien, les exilés sont un ensemble beaucoup plus vaste dont je vais essayer de rendre compte. Et je le ferai en commençant par une brève étude de cas que certains d'entre vous connaissent pour en avoir été les acteurs. Donc à Paris, à la fin des années 1980, une maladie qui était jusqu'alors considérée comme exceptionnelle, le saturnisme infantile, est diagnostiquée dans le cadre d'un dépistage systématique chez plusieurs centaines d'enfants. Cette intoxication au plomb du jeune enfant, comme le savent beaucoup d'entre vous, a des conséquences très graves en raison de l'accumulation du métal dans le système nerveux qui entraîne des problèmes de cognition, des retards d'apprentissage, parfois même des troubles de la conscience, voire le décès. Elle est due presque toujours à l'ingestion d'écailles et ce qu'on ne savait pas à l'époque, à simplement l'inhalation de poussière provenant dans les deux cas de vieilles peintures dans des logements vétustes qui n'ont jamais été rénovés puisque l'utilisation de ces peintures contenant du plomb a été interdite en 1948. Alors dans le rapport d'enquête, de l'enquête parisienne qui inaugure cette histoire, on parle d'enfants, entre guillemets, vivant le plus souvent dans des conditions socio-économiques modestes ou médiocres. Mais on élude leur origine géographique, qui est pourtant manifeste. En effet, ce n'est que 2 ans plus tard qu'une revue de l'ensemble des cas identifiés d'intoxication sévère révèle que 99% d'entre eux sont des enfants de familles africaines, dont 85% d'Afrique subsaharienne. Comment expliquer donc cette considérable surreprésentation statistique ? Malgré les connaissances acquises sur la maladie depuis près d'un siècle, notamment aux États-Unis, où plusieurs épidémies ont été étudiées dans les années 1960-70, les médecins français commencent par explorer des pistes inhabituelles. Puisque les enfants sont d'Afrique de l'Ouest, la cause ne serait-elle pas à rechercher dans les poteries traditionnelles qui servent à préparer les repas, ou dans le cosmétique, qu'on appelle col, qu'utilisent les femmes ? voire dans l'activité occulte pratiquée par certains hommes, qui conduit pour un temps à désigner le saturnisme infantile comme la maladie des marabouts. Toutes ces pistes s'avérant infructueuses, c'est la peinture abîmée qui est finalement retenue. Mais alors, comment expliquer que les enfants d'origine sahélienne soient plus que d'autres touchés? On fait appel à des ethnologues qui fournissent, comme on peut s'y attendre, l'explication espérée. En Afrique de l'Ouest, affirme-t-il, les mères ont l'habitude de sucer de l'argile pendant leur grossesse et cette pratique culturelle, qualifiée de géophagie, est reproduite par les enfants dans ce qui devient chez eux une pratique pathologique qu'on désigne cette fois sous le nom de pica. La thèse séduit évidemment les autorités, d'autant plus qu'elle semble les exonérer de toute responsabilité puisqu'il s'agit de la culture. Des médecins de santé publique relèvent cependant que dans la littérature médicale internationale sur le saturnisme infantile, la surreprésentation de la maladie et le pica sont tout aussi bien décrits en Grande-Bretagne chez les enfants de familles sud-asiatiques et aux États-Unis parmi les enfants de familles noires. Y aurait-il donc une culture commune aux Sénégalais, aux Indiens et aux Afro-Américains? Cette hypothèse peu plausible est progressivement abandonnée au profit d'une plus réaliste que voici. En France, dans les années 1980, les flux légaux d'étrangers se tarissent. À l'interruption officielle de l'immigration de travail ont succédé les restrictions au regroupement familial. Les nouveaux arrivants, désormais pour nombre d'entre eux en situation irrégulière, auxquels s'ajoutent les étrangers, dont les titres de séjour ne sont pas renouvelés en raison des politiques de préférence nationale dans l'emploi, ne peuvent accéder à l'habitat social. Et cet accès est du reste de plus en plus limité à cause d'une part d'une absence de mobilité vers la propriété individuelle liée au sous-emploi et d'autre part d'un manque d'engagement des bailleurs sociaux pour de nouvelles constructions. Au dernier venu de l'immigration, il ne reste donc que le segment inférieur du secteur locatif, voire des logements inoccupés, qui sont souvent des appartements insalubres dans des immeubles décrépits, qu'on loue à des prix exorbitants ou qui sont simplement squattés. Or, dans cette période, il s'agit surtout de personnes originaires du continent africain, fuyant les conflits, la misère ou l'absence d'avenir pour eux-mêmes et leurs enfants. Il n'est donc pas étonnant de les trouver dans cet habitat dégradé dont les peintures au plomb se délitent. Exit l'exotisme. Le remplace donc une histoire sociale de l'immigration et une économie politique de l'habitat populaire qui sont bien moins flatteuses pour la société d'accueil. J'ai choisi de présenter brièvement cette étude de cas sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années en introduction de ce propos, car je voudrais le faire porter sur les différentes façons dont on a voulu depuis un siècle singulariser la santé des migrants, comme on l'appelle, et à l'inverse, sur la manière dont il est aujourd'hui peut-être nécessaire de la banaliser, autrement dit de l'étudier comme n'importe quel domaine de la médecine clinique et de la santé publique, même s'il peuvent demeurer certaines particularités liées à l'histoire de ces exilés dont nous serons amenés à parler tout au long de la journée. L'intérêt pour les questions de santé liées au phénomène de migration est ancien. À partir de la fin du XIXe siècle notamment, qui est une période qui correspond à la fois à une intensification des déplacements de population en Europe, en même temps que de régulation administrative croissante des étrangers, notamment en France, une relation est plus systématiquement établie entre santé et migration. De cette relation, il existe au moins quatre versions qui dessinent à grands traits, à travers des enjeux sanitaires, quatre manières de représenter la relation aux migrants. Ces versions se succèdent, mais plutôt que de se substituer l'une à l'autre, elles sédimentent et se superposent. Et aujourd'hui, je crois que dès que l'on creuse un peu, on voit ressurgir des représentations, des discours et des pratiques que l'on pensait d'un autre temps. La première approche est hygiéniste. Elle est le produit des découvertes microbiennes et donc de la compréhension de la transmission interhumaine des épidémies, que l'on avait longtemps cru être la conséquence d'environnements délétères, selon la fameuse théorie hippocratique. Au début du XXe siècle, alors qu'après la guerre meurtrière qu'elle vient de mener, la France a un besoin impérieux de main-d'œuvre, elle va chercher en Europe de l'Est et du Sud, mais aussi de ses colonies africaines, et des dispositions sont prises pour que des certificats médicaux soient établis avant le départ des pays d'origine, afin d'éviter, dit une circulaire de 1924, la transmission de maladies contagieuses. Et l'année suivante, dans un article de la revue d'hygiène et de médecine préventive, le célèbre professeur Léon Bernard, cofondateur de l'Organisation sanitaire de la Société des Nations, critique l'approche de la Société générale d'immigration, celle qui s'occupe justement de ces problèmes, parce qu'elle opère, dit-il, une sélection trop exclusivement sur des critères de capacité de travail et pas assez, selon lui, de valeur, je le cite, de valeur de la population qui devrait sous-tendre le souci de la santé publique et de l'avenir de la race. S'ajoutent à ces préoccupations infectieuses et eugéniques des préoccupations économiques en raison du fardeau financier que sont censés représenter les soins aux malades. Clairement, dans la logique hygiéniste, que l'on trouve à la même époque dans le Aliens Act de 1920 qui restreint l'entrée des étrangers sur le territoire britannique, le migrant est un danger potentiel à de multiples titres. Il est un vecteur de maladie, un corrupteur de la nation et un poids pour l'État. Si elle est aujourd'hui quelque peu euphémisée, on ne parle plus de l'avenir de la race, bien sûr, cette version n'a pourtant nullement disparu. Il suffit de se souvenir comment, dans les années 1980 et 90, les consulats français en Afrique exigeaient des demandeurs de visa un test négatif du sida, comme le faisaient aussi, entre autres, les autorités soviétiques, quand d'autres pays, tels les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, expulsaient les personnes porteuses de virus. La seconde approche pourrait être appelée exotique. Elle est l'héritière du passé des grandes puissances coloniales et, dans le cas de la France, de ces glorieux instituts Pasteur qui ont essaimé sur la totalité du globe, de Madagascar à Montevideo, de Téhéran à Dakar, de Tunis à Hanoï. Sans les découvertes de Pasteur, écrivait le docteur Albert Calmette, fondateur de l'Institut de Saïgon et second président de la Société de pathologie exotique, le développement et l'émancipation des populations indigènes auraient été impossibles. Donc ce réseau des instituts forme un empire scientifique dans lequel se développe une clinique nouvelle, la médecine tropicale, et une science inédite, la parasitologie, qui vient complémenter les autres branches de l'infectiologie. À la fin de la période coloniale, non seulement les instituts perdurent, mais nombre de médecins et biologistes qui vont être amenés à traiter les migrants ou les exilés dans la métropole ont été ou continuent d'être formés dans les anciennes colonies. C'est donc dans les services de médecine tropicale et de parasitologie que les patients originaires d'Afrique et d'Asie sont le plus souvent soignés, comme s'ils ne pouvaient que relever de disciplines particulières. Le dogme nosologique, en ce qui concerne ces migrants, repose alors sur une trilogie que beaucoup d'entre vous peut-être ont apprise à l'université. Pathologie d'importation, correspondant typiquement aux parasitoses telles que le paludisme, les bilharzioses, les filarioses. Pathologie d'acquisition, dont les maladies sexuellement transmissibles sont significativement l'archétype. Et pathologie d'adaptation qui exemplifie la dépression due à l'isolement. Avec les années, cette classification et ces affections ont toutefois de moins en moins de sens, puisque l'essentiel des migrants est installé de longue date et que les nouveaux arrivants, moins nombreux, présentent rarement ces pathologies exotiques. C'est finalement le sida, dont la propagation affecte particulièrement les populations africaines, qui donne une seconde vie à ces spécialités en voie de marginalisation. Parallèlement à cette histoire, la médecine coloniale se distingue aussi dans le domaine de la santé mentale, avec notamment les travaux d'un Britannique, John Colin Carruthers, à Nairobi, qui écrit un traité pour l'Organisation mondiale de la santé sur ce qu'il appelle le lobe frontal des Africains et surtout l'école d'Alger, dont le chef de file est le fameux docteur Antoine Porot, promoteur de ce qu'il appelle la psychiatrie musulmane, qui rapporte, je le cite, « l'impulsivité criminelle de l'indigène nord-africain à la domination diencéphalique ». L'un comme l'autre de ces médecins justifiant par leur théorie neuroanatomique le racisme et la répression dans le monde colonial. Dans les années 1970, leurs héritiers, désormais confrontés en France à des patients migrants principalement d'Afrique du Nord, dont certains souffrent de séquelles d'accidents du travail, découvrent la notion déjà ancienne de sinistrose, qui est supposée être une névrose de revendication censée conduire les patients à exagérer leurs symptômes pour obtenir des bénéfices secondaires tels que les prolongations d'arrêt maladie et des indemnisations de leurs séquelles. Même si médecine tropicale et psychiatrie musulmane représentent des univers intellectuels bien différents, comme vous le voyez, elles ont en commun un passé colonial qui laisse des traces dans la prise en charge ultérieure des migrants par les médecins, dans la mesure où les uns comme les autres viennent, au moins au début, de ce même monde. La troisième approche est culturaliste. Elle procède d'une interprétation des migrants comme différents en raison de leur culture. Il ne s'agit pas de la théorie développée aux États-Unis dans le cadre du mouvement culture et personnalité, mouvement anthropologique, mais d'un culturalisme ordinaire qui consiste d'une part à réifier la culture, autrement dit à en faire une entité clairement identifiable, et d'autre part à la surdéterminer, autrement dit à en faire la cause principale des comportements observés. Si l'exemple du saturnisme infantile que j'ai évoqué tout à l'heure est bien sûr tout à fait évocateur, on a vu là encore comment le sida réactivait des préjugés culturalistes sur ce qu'on appelait l'hypersexualité ou la promiscuité sexuelle des Africains, ou sur leur recours à des rituels néo-traditionnels dont le fantasmatique viol de jeunes filles vierges aux vertus réputées purificatrices. Plus largement, cette interprétation culturelle, a priori, est fréquente lorsqu'on a affaire à des pratiques jugées déviantes au regard de la norme comportementale de bonne santé ou à la norme médicale en matière thérapeutique. Souvent, cette interprétation a valeur d'ailleurs non pas d'accusation, mais d'excuse, qui sert à la fois à externaliser la déviance, ce n'est pas la faute des malades, mais c'est de leur culture, et à exonérer les médecins et les autorités, ils ne sont pas responsables du mauvais état de santé ou du défaut d'observance thérapeutique. Ainsi, la création de l'hôpital franco-musulman, qui ouvre ses portes en 1935 à Bobigny, est-elle justifiée par le fait que, les indigènes nord-africains, lorsqu'ils sont malades, ne se décident à recourir à l'action des médecins qu'à la dernière extrémité et s'attardent dans des taudis au risque de contaminer dangereusement leur voisinage. Donc, pour répondre à ce problème, l'hôpital, qui est construit dans les quartiers populaires en dehors de la capitale, bénéficie de soignants parlant arabe ou kabyle et initiés à la culture maghrébine. On y sert du couscous au repas aux patients et y est adjoint un cimetière avec un carré musulman. Dans la période contemporaine, le développement de l'anthropologie médicale, qui a suscité un engouement à la fois parmi les anthropologues et parmi les médecins, donne un regain d'intérêt pour les différences culturelles. Et l'essor de l'ethnopsychiatrie en est le signe le plus manifeste. À la différence toutefois de la psychiatrie coloniale, ce n'est plus dans le cerveau que l'on cherche des explications, mais dans la culture, qui fournit des réponses à travers des méthodes qui prétendent renouer avec des pratiques traditionnelles. Mais ici, comme vous l'imaginez, la frontière demeure indécise entre l'attente des patients d'être reconnus pour ce qu'ils sont et leur souci d'être pris en charge dans le droit commun, plutôt que dans de tels dispositifs d'exception. Et puis la dernière approche est épidémiologique. Elle repose sur l'utilisation de données quantitatives et de tests statistiques. Elle privilégie la dimension collective sur la dimension individuelle. Elle débouche sur des propositions de santé publique plutôt que de médecine clinique. Et elle s'intéresse aux différences entre les migrants et le reste de la population, non pas du point de vue culturel, mais du point de vue des disparités. Fait remarquable cependant, alors que la littérature scientifique internationale abonde depuis longtemps en travaux sur les inégalités sociales de santé, et même pour ce qui est des États-Unis sur les inégalités ethno-raciales, ce n'est qu'assez récemment que l'immigration a été prise en compte, comme ce qu'un récent article de synthèse de l'Annual Review of Public Health appelle des déterminants sociaux de la santé. Le premier résultat de ces travaux, c'est le fameux paradoxe du Healthy Migrant Effect, donc l'effet du migrant en bonne santé, qui établit que les migrants de première génération sont en moyenne en meilleure santé que les natifs du pays hôte, qu'il s'agisse de déclaratifs, de morbidité ou de mortalité, avec donc pour conséquence que, contrairement à ce que beaucoup croient, ils entraînent des dépenses de santé moindres. Et ce sont des données qu'on retrouve dans à peu près tous les pays occidentaux. On estime que cet effet est dû à la fois à la sélection au départ des sujets les plus robustes et à la prévalence de comportements plus sains parmi eux en matière de nutrition, de tabagisme ou d'alcoolisme. Une seconde singularité, complémentaire de la précédente, tient au paradoxe d'assimilation qui conduit à ce que l'avantage initial dont je vous parlais se réduisent progressivement jusqu'à se négativer à mesure que le séjour se prolonge dans le pays hôte. Les raisons de cette évolution défavorable tiennent cette fois à la détérioration des conditions de vie, à l'adoption de pratiques néfastes et aux difficultés d'accès aux soins. Alors, ce schéma général, avec ces deux paradoxes que je viens d'évoquer, connaît des variations en fonction du pays d'origine, du milieu social de départ et surtout peut-être de la période au cours de laquelle se situe la migration. Période dans le temps contemporain. Fait remarquable, ce domaine relativement nouveau de recherche sur la santé des migrants bénéficie de travaux qui ont été conduits depuis longtemps sur les minorités ethno-raciales, du moins dans les pays où ils sont autorisés. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas en France, mais c'est le cas aux États-Unis, où par exemple Nancy Krieger a pu montrer le rôle spécifique du racisme et des discriminations, à côté d'autres facteurs, dans la détérioration de l'état de santé et notamment de la santé mentale. Et bien sûr, ça s'applique aux exilés également. Enfin, les enquêtes les plus récentes portent sur un phénomène dont l'ampleur et la visibilité se sont considérablement accrues au cours des dernières années, c'est la santé des vagues migrants et de réfugiés, de sans-papiers et de demandeurs d'asile, ces distinctions s'avérant parfois empiriquement peu pertinentes au regard des conditions de vie et de santé, tous ceux que nous appelons, au fond, les exilés. Elles révèlent l'impact des épreuves terribles traversées pour rejoindre les pays dits d'accueil, la grande précarité juridique autant que matérielle qu'ils y rencontrent et la répression qu'ils doivent subir de la part des forces de l'ordre, ce qui s'ajoute bien sûr aux effets délétères des circonstances, pauvreté ou violence qui les ont amenés à quitter leur pays. Les données qui ont été publiées récemment dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire et dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé pour la région Europe documentent les difficultés d'accès aux soins et la dégradation de l'état de santé de ces populations, tout comme le font chaque année les rapports d'activité et d'observation qui sont faits par le COMED. Et donc on le voit dans ces cas combien cette théorie ou ce paradoxe du migrant en bonne santé est tout à fait relatif. Alors les quatre approches que je viens succinctement d'évoquer, hygiéniste, exotique, culturaliste, épidémiologique, ne sont pas exclusives d'autres, par exemple humanitaires ou psychologiques, mais elles dessinent, je crois, une part importante de ce domaine que nous appelons la santé des exilés. Au-delà de leurs évidentes différences, elles ont en commun de singulariser une population et ses problèmes. Singularisation du point de vue du danger qu'elle représente pour les hygiénistes, des pathologies qui la caractérisent pour les tropicalistes, des traits qui la différencient pour les culturalistes et des risques auxquels elle est exposée pour les épidémiologistes. Chacune de ces approches a eu et a encore une certaine raison d'être. Dans la perspective hygiéniste, la transmission de certaines récentes épidémies, des virus H5N1 ou Ebola par exemple, justifie des mesures exceptionnelles de contrôle aux frontières. Dans une perspective tropicaliste, la connaissance des cycles, des symptômes, des traitements des maladies parasitaires, du paludisme à la bilharziose, demeure indispensable et du reste de plus en plus, en fait, pour les touristes autant que pour les migrants. Dans une perspective culturelle, la prise en compte des modes spécifiques de se représenter les affections et leurs traitements, d'en parler, d'y réagir, mérite bien sûr l'attention. Et enfin, dans une perspective épidémiologique, les aléas particuliers auxquels les migrants sont confrontés de par leur histoire et dans leur pays d'origine, au cours de leur périple et dans leur pays d'accueil, appellent évidemment des analyses et des réponses adaptées. Toutefois, je voudrais défendre l'idée qu'une désingularisation du domaine de la santé des migrants ou des exilés doit autant que faire se peut prévaloir. Au fond, il s'agit de sortir de la situation d'exception que précisément les politiques d'immigration s'efforcent d'imposer. J'en donnerai deux exemples. Premièrement, lorsque des jeunes étudiants syriens rencontrés dans leur baraque de la jungle de Calais que j'ai étudiée présentent des infections respiratoires dues à leur mode d'hébergement et des blessures consécutives aux violences policières. Lorsque les équipes de plusieurs organisations humanitaires constatent des épidémies de gale et de poux de corps dans le camp de Grande-Synthe. Ou lorsque 4 personnes sur 5 d'une enquête de Médecins du Monde dans ces centres de soins et d'orientation déclarent être en situation d'insécurité alimentaire. Il s'agit de problèmes de santé qui ne relèvent pas de la migration en tant que telle, mais des conditions dans lesquelles les migrants sont contraints de vivre. En Allemagne ou en Suède, où ils sont accueillis dans des centres d'hébergement décent, il ne souffre pas de ces problèmes. Deuxièmement, quand des études conduites dans plusieurs pays, et notamment aux États-Unis, montrent un excès d'accidents du travail et de maladies professionnelles, une surexposition à des toxiques dans les activités industrielles, à des pesticides dans le monde agricole, ou à des températures élevées sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, et une précarité de l'emploi favorisant l'exploitation et les mauvais traitements sur les lieux de travail, y compris domestiques, avec des conséquences graves sur l'état psychique, il s'agit de problèmes de santé qui ne relèvent pas de la migration en tant que telle, mais des conditions dans lesquelles on fait travailler les migrants. Plutôt que de santé des migrants, on a affaire à des questions de santé publique dans le premier cas, de santé au travail dans le second. Il en est de même des refus de soins en médecine libérale ou des diverses formes de dissuasion dont le Conseil de l'Ordre des médecins informé à maintes reprises ne s'est jamais ému, ou encore des défauts d'information dans les services sociaux ou les caisses d'assurance maladie concernant la possibilité d'accès aux soins, à des soins médicaux. Dans toutes ces situations, les exilés ne sont que le segment le plus vulnérable des populations vulnérables. Ils ne sont pas à cet égard spécifiques, mais simplement à l'extrême d'un spectre de précarité. C'est pourquoi plus on les considère à part du droit commun, plus on invisibilise le fait que les violations de leurs droits révèlent ou annoncent les violations des droits des suivants dans l'ordre de la vulnérabilité sociale. La désingularisation de la santé des exilés doit en réalité opérer sur les deux termes, santé et exilé, avec d'importantes conséquences du point de vue des politiques et des actions à mener. D'un côté, comme le suggèrent les exemples que je viens de donner, les exilés ou les migrants diffèrent des natifs principalement en raison des conditions de vie, de logement et de travail qui leur sont faites. Il est donc légitime de les considérer dans le droit commun de la médecine et des soins plutôt que dans un espace particulier, ce que du reste s'efforcent de faire la plupart des associations qui les prennent en charge par défaut lorsque les institutions publiques ne le font pas. C'est le cas bien sûr entre autres du Comed. Une fois l'urgence des premiers soins passée, elle tente d'intégrer ces malades dans les circuits ordinaires d'une médecine publique, par ailleurs de plus en plus sous la pression de restrictions budgétaires. D'un autre côté, la meilleure manière d'améliorer les conditions de santé n'est pas d'agir sur la santé en tant que telle, mais sur les conditions de vie en général, ce qui est vrai pour toutes les populations. Dans le cas des exilés, une méta-analyse récente publiée dans le Lancet sur les effets des politiques ne relevant pas du domaine de la santé dans 8 pays européens, dont la France, montre que les politiques contraignantes à l'entrée, détention, visa temporaire, sont associées à une détérioration de la santé mentale, tandis que les politiques restrictives dans la période dite d'intégration, en matière de protection sociale, de régularisation, s'accompagne d'une santé dégradée, d'un moindre recours aux soins et d'une mortalité plus élevée. En somme, ce qu'on appelle la santé des migrants, plutôt chez nous la santé des exilés, relève bien moins de logique propre à ces migrants ou ces exilés et de politiques spécifiques à la santé qu'il n'est d'usage de le penser. Il ne faut certes pas négliger les problèmes particuliers que présentent nombre d'exilés en raison notamment des violences subies et des périls traversés dans leur pays d'origine et sur leur trajet vers leur pays d'accueil, on en reparlera, ou tout simplement en raison des difficultés de communication linguistique qui supposent des pratiques exigeantes d'interprétariat, qui sont une des activités importantes du COMED. Cependant, la santé des exilés se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil, comme elles devraient l'être à toutes et à tous, indépendamment de leur origine et de leur statut. C'est pourquoi dans ces temps où la répression et l'exclusion prévalent trop souvent à leur égard, ce qu'on appelle la santé des migrants ou la santé des exilés en dit long sur l'éthique de la société qui les reçoit. Merci.